Il vous donne la parole.
Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue si vous nous rejoignez, RFI vous donne la parole comme tous les jours à cette heure-ci, vous le savez, vous pouvez commenter l'actualité. Nous parlerons football ce matin avec le coup d'envoi samedi de la 30e Coupe d'Afrique des Nations. Nous reviendrons évidemment sur la défaite du vice-champion, le Burkina Faso, qui s'est incliné 2-0 face au Gabon. La Guinée équatoriale, pays organisateur, doit se contenter d'un match nul, un partout face au Congo, un partout également dans les deux premières rencontres hier, rencontre du Groupe B, Zambie, République démocratique du Congo et Tunisie, Cap-Vert. Alors que vous inspire ce début de compétition? Dites-nous quels sont les atouts, les faiblesses des 16 équipes qualifiées? Quelles sont les chances de votre sélection? Vos pronostics évidemment nous intéressent. Vous êtes déjà plus de 400 sur la page Facebook de l'émission. Donc continuez évidemment à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, mais aussi au standard, le téléphone 33 9 693 693 70 09 693 693 73-70 si vous nous appelez de France, et ce sera l'occasion tout à l'heure de dresser un état des lieux du football africain. Mais d'abord, votre rendez-vous privilégié avec la rédaction d'RFI, vous vous posez des questions, il vous manque un complément d'information pour mieux comprendre l'actualité, et bien là aussi, appelez-nous, vous êtes les bienvenus. La rédaction s'efforce tous les matins de répondre au plus grand nombre de vos questions, et on a encore aujourd'hui des questions sur Boko Haram qui multiplie, vous savez, ses attaques dans le nord-est du Nigeria, mais aussi ses incursions au Cameroun. Hier d'ailleurs, des centaines d'islamistes ont attaqué deux villages camerounais. Ils ont d'ailleurs réussi à enlever une soixantaine de personnes. Bonjour Olivier Roger.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous Olivier, journaliste au service Afrique d'RFI. Une première question qui nous vient justement du Cameroun. Marjolin est avec nous, bonjour.
Bonjour Juan.
On vous écoute.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale RFI. Permettez Juan que je m'incline devant la mémoire de ceux qui sont morts à cause de Boko Haram. Je salue la bravoure des soldats camerounais. Actuellement, le Tchad a envoyé un contingent sur le front à l'extrême nord du Cameroun pour combattre Boko Haram. Et de même, le Tchad reçoit un flux important de réfugiés sur son territoire. Ma question est la suivante. Et quelles sont les conséquences de l'arrivée massive des réfugiés sur la position d'Ndjamena vis-à-vis de Boko Haram? Est-ce que c'est l'arrivée de ces réfugiés qui a poussé Ndjamena à entrer en guerre contre Boko Haram?
C'est vrai que le Tchad a commencé à déployer ses troupes dans le nord du Cameroun. Olivier Roger, ces derniers jours, le Tchad a dû accueillir des milliers de Nigérians qui ont fui les attaques sanglantes de Boko Haram.
Oui, 4000 personnes ont fui les attaques de Baga en partant vers le Tchad, c'est-à-dire en prenant des pirogues et en traversant le lac Tchad. Et je ne sais pas si Marjolin et si vous avez suivi les reportages de notre correspondant au Tchad, Majas Ranako, qui est allé dans le village de Ngouboua, qui est un village tchadien de l'autre côté du lac Tchad, là où les populations de Baga, du moins une partie, sont arrivées en pirogue ou par d'autres moyens de transport. Et ces 4000 personnes vivent dans des conditions précaires. Bien évidemment, les agences onusiennes qui sont au Tchad, notamment l'UNICEF, le HCR, ont apporté des couvertures, de l'aide, de quoi faire face à l'afflux de ces 4000 personnes. Mais bien évidemment, cela pose un problème pour le Tchad. Cela dit, il faut bien comprendre que le principal afflux de réfugiés, ce sont les Nigériens eux-mêmes qui l'assument, puisque les populations de cette région de Baga et de ces 15 à 16 villages qui ont été attaqués début janvier par Boko Haram sont principalement partis dans la région de Maïdougouri, voire même à Maïdougouri, où 5000 personnes ont rejoint les dizaines et dizaines de milliers de personnes qui sont déjà dans les camps de Maïdougouri. C'est bien le Nigeria qui supporte en premier lieu le poids de ces déplacements de population, et c'est d'autant plus compliqué pour Maïdougouri que bien évidemment, dans cette zone où Boko Haram exerce un contrôle de plus en plus prégnant, eh bien, les agences onusiennes ne travaillent pas du tout de la même façon qu'elles pourraient qu'elles le font actuellement au Tchad.
Ouais, on rappelle que, par exemple, dans le camp dont vous parliez tout à l'heure, à Ngouboua, ce camp a été conçu pour accueillir un millier de personnes, et en ce moment même, il y a effectivement, comme vous le disiez, 4000 personnes qui vivent sur place. Est-ce que c'est vraiment cette arrivée, on peut le dire, massive de réfugiés qui a poussé, d'une certaine façon, le Tchad à déployer des hommes et à venir en aide au Cameroun?
Disons donc ce n'est qu'un élément parmi un faisceau d'éléments plus nombreux. L'élément le plus important est sans doute le fait que Boko Haram menace désormais clairement les intérêts vitaux du Tchad dans cette région du lac Tchad, c'est-à-dire que N'Djamena, qui n'est qu'à 50 kilomètres des positions ou des premières positions occupées par Boko Haram, N'Djamena risque et redoute de voir la région du lac Tchad contrôlée en partie par Boko Haram, puisque Boko Haram est déjà sur les rives du lac Tchad. Cela pose un problème parce que N'Djamena redoute aussi de voir les routes commerciales qui vont vers le Cameroun et qui sont vitales pour ce pays qui est un pays enclavé. N'Djamena redoute de voir ces routes commerciales coupées par l'action de Boko Haram. Il y a aussi un autre élément qu'il faut prendre en compte dans l'appui qu'apporte le Tchad au Cameroun, c'est le fait que un peu plus au sud, le pétrole tchadien sort par le Cameroun, puisque le pipeline traverse le Cameroun, et donc quand le Cameroun demande l'aide du Tchad, eh bien N'Djamena peut difficilement refuser. Voilà, disons pour les éléments économiques de cette intervention tchadienne.
Alors un convoi de soldats tchadiens est arrivé dès samedi soir à Maroua, qui est une grande ville du nord du Cameroun. Pour comprendre la mobilisation du Tchad, on peut aussi évidemment penser à la pression internationale.
Notamment depuis le sommet de Paris où les pays de la région et les puissances internationales s'étaient réunis pour évoquer la sécurité au Nigeria et cette question de Boko Haram, il existe depuis une pression internationale pour une intervention des puissances. D'ailleurs, ça a eu un premier effet, c'est que le Cameroun a déployé son armée au nord, ce qui n'était pas le cas avant le mois de mai.
On parle de 2000 soldats camerounais déployés sur le terrain.
On parle même de 6000
soldats. De 6000 désormais, d'accord.
De 6000 désormais, voilà, puisque le Cameroun a envoyé ses bataillons d'élite notamment, et ce sont eux qui, pour l'instant, contrôlent les frontières et contiennent les attaques ou tentent de contenir les attaques de Boko Haram. Ceci dit, c'est nettement insuffisant, puisque la pression mise par Boko Haram sur le Cameroun est extrêmement forte en ce moment. Alors N'Djamena, tout le monde s'attendait à ce qu'à un moment ou à un autre, l'armée tchadienne, qui est une puissance régionale, entre, si je puis dire, dans la danse. Ceci dit, N'Djamena a attendu, temporisé un peu, d'une part parce que c'est jamais facile d'envoyer son armée à l'étranger. Ce n'est pas une petite action, c'est un événement extrêmement important dans la vie d'une nation. Deuxièmement, sans doute parce que, on va dire, les intérêts vitaux du Tchad n'étaient pas menacés jusqu'à ces attaques de décembre et janvier dans la région du Tchad. N'Djamena, on l'a dit, est une force militaire régionale de plus en plus importante. Idriss Déby a un rôle de gendarme régional qui est de plus en plus important, notamment depuis la chute de Muammar Kadhafi. Il ne pouvait rester insensible à la pression internationale et il ne pouvait rester insensible à la demande de ses voisins, d'autant que ses intérêts sont menacés.
Et on aura l'occasion d'en parler cette semaine, évidemment, on organisera un débat sur cette intervention tchadienne pour lutter contre Boko Haram. Je me fais le porte-parole d'Issa, qui est à Kourougou, en Côte d'Ivoire. Il nous dit, est-ce que cette situation peut avoir des conséquences sur la campagne présidentielle, la campagne de Goodluck Jonathan, et sur l'issue de l'élection? J'imagine... J'ose espérer que Boko Haram est un thème central de cette campagne électorale en ce moment.
Alors d'après ce que dit Julie Vandal, notre correspondante au Nigeria, ce n'est pas vraiment le cas. C'est-à-dire que paradoxalement, Boko Haram s'est invité dans la campagne, bien évidemment, puisqu'on en parle à Lagos, mais ce n'est pas le cœur de cette campagne. Mmh. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a au Nigeria un fort désintérêt au sud, notamment, pour toutes ces questions relatives à Boko Haram. Boko Haram et Maïdougouri, c'est très loin de Lagos. Les populations chrétiennes du sud ne s'intéressent qu'assez peu à ce qui se passe là-bas. Les médias relayent bien évidemment les événements, mais n'en font pas leur gros titre, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est un petit peu, si on veut prendre un exemple européen, c'est un Vladivostok vu de Moscou. Mmh. C'est-à-dire que c'est très loin et on ne sait pas forcément, ou on ne s'intéresse pas forcément à ce qui s'y passe. Malgré tout, c'est devenu un enjeu politicien, on va dire, puisque le principal challenger de Goodluck Jonathan, c'est-à-dire Muhammadu Buhari, est du Nord, c'est un musulman. Lui-même a déclaré pendant la campagne que si on ne pouvait pas voter correctement dans toutes les régions du pays, et notamment Maïdougouri...
Et on pourra pas voter dans toutes les régions qui sont aujourd'hui occupées par les islamistes, c'est en tout cas ce qu'a déjà dit la commission électorale.
Voilà, qui apporte de l'eau au moulin de Muhammadu Buhari, qui dit que si on ne peut pas voter, eh bien, il contestera les résultats. Ses partisans gens sont même allés plus loin en expliquant toujours hein, sur un angle politicien que Goodluck Jonathan finalement ça l'arrangerait qu'on ne puisse pas voter correctement à Maïdougouri et dans la région parce que les populations du Nord voteraient majoritairement pour le candidat Bouhari. Bien évidemment, le parti de Goodluck Jonathan a dit que tout cela était faux, rappelant que la loi électorale impose qu'un candidat doit recevoir 25% des voix dans les deux tiers des États, puisque c'est un État fédéral, pour être élu. Donc, Boko Haram est plus un enjeu politicien dans cette campagne qu'un véritable enjeu politique.
Donc Boko Haram n'est pas un thème majeur de cette campagne présidentielle. En revanche, l'insécurité, on en parle, les candidats en parlent lors de leur discours.
Oui, c'est peut-être plus sous cet angle-là qu'il faut voir les choses et qu'on voit les choses à Lagos. Finalement, les populations du Sud, Boko Haram, tout cela est un peu loin, mais les populations du Sud s'interrogent quand même sur la capacité de Goodluck Jonathan et de son armée qui, depuis deux ans, bénéficie de budgets gonflés, de budgets survitaminés, d'un véritable déversement d'argent, les populations s'interrogent sur la capacité de ce président à assurer la sécurité. Voilà un petit peu la façon dont Boko Haram s'est invité dans cette campagne électorale. A-t-on un président capable d'assurer l'unité de cet État, la sécurité dans toutes les régions? Et puis, bien évidemment, d'autres questions politiciennes aux yeux des populations du Sud sont plus importantes. La gestion de la rente pétrolière, la corruption et puisqu'on est vraiment dans une bataille politicienne, les candidats, du moins les partisans de Goodluck Jonathan, reprochent à Bouhari d'être un homme du passé. Les partisans de Bouhari reprochent à Goodluck Jonathan d'être un homme incompétent. Bref, on est plus dans une campagne politicienne, mais néanmoins axée sur la sécurité.
Et on suivra ça, évidemment, avec nos correspondants sur place. Scrutin présidentiel le 14 février, dans moins d'un mois maintenant, au Nigeria. Merci, Olivier Roger, venu répondre, notamment à Issa, qui nous appelait de Kourougou, en Côte d'Ivoire. 33 9 693 693 70, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Une question concernant la crise politique que traverse en ce moment Haïti. Thémistocle est avec nous, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour aux auditeurs de RFI.
Vous nous appelez d'Haïti, c'est bien ça, vous êtes dans quelle ville exactement?
Je suis du côté de Miragouane, dans le sud-ouest d'Haïti.
Dans le sud-ouest du pays. On vous écoute, quelles sont vos questions?
Depuis le 12 janvier, le Parlement haïtien est dysfonctionnel avec le départ de la Chambre des députés et du deuxième tiers du Sénat. Le président haïtien Joseph Michel Martelly est donc le seul aux commandes. Ma question c'est pourquoi depuis trois ans les élections législatives, municipales et locales n'ont pas été organisées et maintenant comment va procéder le président pour apaiser la situation?
Excellente question. C'est vrai que ça fait trois ans que les Haïtiens attendent l'organisation d'élections législatives, mais aussi municipales. Et faute d'élections, eh bien le Parlement haïtien a été dissous la semaine dernière. Marcel Dorigny est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, vous enseignez à l'université de Paris 8 et vous êtes spécialiste de Haïti. Le président Michel Martelly est au pouvoir depuis 2011. Pourquoi n'a-t-il jamais organisé d'élections législatives?
Bien, c'est toujours très très difficile de répondre à la place du principal intéressé, mais tout de même, je me permettrais de rappeler que les grandes difficultés à organiser des élections en Haïti sont un mal chronique de la démocratie haïtienne. Il y a souvent des reports, il y a des problèmes extrêmement nombreux qui relèvent de, disons, de la faiblesse des structures administratives qui font que les listes électorales ne sont jamais tout à fait prêtes, jamais tout à fait fiables, il y a des contestations, il y a... Enfin, voilà. Donc c'est un problème récurrent dans l'histoire récente depuis une vingtaine d'années, depuis la fin, on va dire, du régime dictatorial, où les élections ont du mal à s'organiser, ou sont contestées, ou sont... Donc voilà. Alors, pourquoi Martelly lui-même n'a-t-il pas pris les devants, anticipé, organisé en quelque sorte, un peu à marche forcée, l'inscription sur les listes électorales, enfin la confirmation de ces listes, puisqu'il y avait bien des listes, lui-même a été élu, et son élection n'avait pas été contestée. Donc c'est vraiment un problème récurrent. Alors, y a-t-il derrière cette carence administrative, politique, ou politico-administrative, y a-t-il une volonté du pouvoir en place du président Martelly de se maintenir au pouvoir quoi qu'il arrive? Je ne peux pas répondre, c'est difficile. Apparemment, il joue le jeu de la démocratie, sauf qu'il ne s'en donne pas les moyens, et il ne donne pas les moyens aux institutions de jouer la démocratie. Mais alors maintenant, le Parlement...
Est-ce que ça signifie justement, Marcel Dorigny, que maintenant que le Parlement n'existe plus, eh bien c'est le président, lui seul, qui dirige le pays?
Ben oui, puisqu'il n'y a plus d'instance élue. Il n'y a plus d'autres instances. Il y a un morceau, un tiers ou deux tiers, je ne me souviens plus bien, du Sénat qui existe encore. Le Parlement n'existe plus. Le Premier ministre a démissionné il y a quelques semaines. Il a été remplacé par le Président. Donc il n'y a pas eu de validation de la fonction du Premier ministre, qui est quand même importante. Donc nous sommes là face à un régime présidentiel de fait.
Donc il gouverne par décret.
Voilà, il gouverne seul, des décrets qui devront un jour ou l'autre être ratifiés par le futur Parlement, mais on ne voit pas très bien à quelle échéance, puisque pour l'instant il n'y a pas de calendrier.
Donc on ne voit pas
calendrier électoral.
On ne voit pas comment sortir de l'impasse.
Ben, on voit difficilement. La seule solution, c'est de convoquer les électeurs avec les listes électorales telles qu'elles sont, avec évidemment le risque d'avoir à nouveau des contestations, mais je ne vois pas d'autre issue que d'organiser des élections dans des délais raisonnables. Je ne vais pas te faire que ce soit en catastrophe dans les trois jours, mais il faut prévoir un calendrier sur les trois mois, par exemple, pour qu'il y ait enfin des élections, et des élections qui seraient claires, qui seraient, disons, transparentes, où tous les inscrits pourraient voter.
Comment sortir de la crise en Haïti? On peut en parler si vous le souhaitez. Vous êtes haïtien, vous nous écoutez justement sur place, ou vous faites partie de la diaspora. Vos réactions et vos témoignages nous intéressent. On pourra en parler vendredi dans la Libre Antenne. Marcel Dorigny, merci d'avoir été avec nous et merci de nous avoir éclairé sur la situation politique en Haïti. Guilhem Delteil du Service France nous rejoint. Bonjour Guilhem.
Bonjour Juan.
Et nous accueillons Conan qui nous appelle d'Abidjan. Bonjour Conan.
Bonjour Juan.
Vous avez
bonjour à tous
les auditeurs. Allô? Oui, je vous ai un peu interrompu dans vos salutations. Vous avez, vous, des questions concernant les enquêtes sur les récents attentats à Paris?
Oui, en fait, j'ai deux questions et je voulais savoir où en est l'enquête sur l'organisation des attentats de Charlie Hebdo et comment procède-t-on à l'enquête?
Alors, Guilhem Delteil, sur les 12 personnes interpellées dans cette enquête, les différentes enquêtes sur les attentats de Paris, 9 sont en joue encore, à l'heure actuelle, en garde à vue, c'est bien ça?
Alors, c'est effectivement ça, 9 sont toujours en garde à vue, 8 hommes pardon, et une femme, et cette garde à vue a été prolongée hier de 48 heures, puisqu'en affaire de terrorisme, en fait, les gardes à vue sont de 48 heures renouvelables, donc 96 heures, elle peut durer jusqu'à demain matin, a priori, et pour l'instant, donc la police... Enfin, les enquêteurs entendent toujours donc ces 9 personnes autour d'un éventuel soutien logistique qu'ils auraient pu apporter à Mehdi Coulibaly, à savoir il lui aurait peut-être aidé à se procurer des armes ou à se trouver des véhicules pour se déplacer sur les différents lieux à Montrouge pour la fusillade et puis à la porte de Vincennes dans l'hypercacher. Alors ça, ce sont des personnes qui ont été toutes interpellées dans l'entourage d'Mehdi Coulibaly. Il y avait eu d'autres personnes interpellées tout de suite après l'attentat contre Charlie Hebdo dans l'entourage des frères Kouachi, une petite dizaine de personnes aussi, mais qui ont finalement toutes été relâchées, certaines au terme des 96 heures de garde à vue. Donc pour l'instant, l'enquête prend un peu plus de consistance, dira-t-on, du côté d'Amédi Coulibaly, parmi les éventuels soutiens que le jeune homme aurait pu, dont il aurait pu bénéficier, plus que peut-être du côté des frères Kouachi, où pour l'instant on a un petit peu moins d'informations sur la façon dont ils se sont organisés. Alors on sait tout de même qu'Amédi Coulibaly avait contracté un emprunt pour acheter ses armes et qu'il avait donné une partie des armes qu'il avait achetées aux frères Kouachi, que l'enquête autour des trois est quand même finalement très très liée.
Et l'enquête s'interroge également sur d'éventuelles ramifications internationales.
Alors oui, d'une part pour ce qui concerne les armes, ce que j'évoquais à l'instant, c'est en Belgique qu'Amédi Coulibaly en aurait acheté en tout cas une partie. On sait aussi qu'Amédi Coulibaly a été vu en Espagne avec sa compagne ou sa femme au sens religieux, c'est Ayad Boumediene, au tout début janvier, au moment où en fait elle-même s'est envolée pour la Turquie avant de passer
rejoindre
donc
la Syrie.
De passer en Syrie, effectivement. Et Amédi Coulibaly aurait été vu avec un homme en fait à Madrid. On se demande s'il bénéficiait du soutien d'une cellule sur place aussi, une cellule qui lui aura apporté une aide logistique là aussi. Ça fait partie des pistes étudiées. Et puis il y a aussi la question de cette vidéo qui a été postée de manière titre posthume sur Internet où Amélie Coulibaly revendique ses actes. Elle semble qu'elle ait été postée de Syrie.
À suivre donc. Merci beaucoup Guilhem Deltaï d'être venu éclairer Conan et par la même occasion tous les auditeurs qui s'intéressent à ces enquêtes sur les attentats de Paris. 9h29 à Paris, dans un instant le journal, le point complet sur l'actualité. Et tout de suite après, on parlera football avec la Coupe d'Afrique des Nations. Vos pronostics évidemment sur cette 30e édition de la CAN, 33 9 693 693 70. On vous attend au standard mais aussi sur les réseaux sociaux de l'émission, notamment la page officielle RFI Appel sur l'actualité. C'est la page Facebook. À tout de suite.